Pas plus grande bénédiction que la parole de Dieu. Nous allons aller ce matin tout doucement. Nous ne sommes pas nombreux, donc il n'y a pas de pression à avoir. On va aller tout doucement. Il y a des choses vraiment essentielles que Dieu veut que chaque chrétien, quand on naît de nouveau, que chaque chrétien sache. J'ai pas. On va simplement ouvrir la Bible et puis on va aller pas à pas. Nous allons commencer dans Acte 20 et on va lire le verset 26. Non, le verset 20. On va lire le verset 20. Et il y a une parole un peu bizarre que Paul va dire aux responsables de l'église d'Éphèse. Acte 20, le verset 20. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il y a des choses utiles à savoir. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit qu'il n'a rien caché. Et quand on va au verset 27, il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. On a envie de dire, Paul, c'est un menteur. Parce qu'on lit la Bible tous les jours et on a comme l'impression qu'il y a encore des choses à découvrir. Et Paul dit que lui, pendant ces 3 années, il a enseigné tout le conseil de Dieu à l'église d'Éphèse. Tout le conseil. Quand une maman est heureuse de voir sa jeune fille mariée, elle dit oui, j'ai inculqué à ma fille le savoir qu'elle devait avoir pour tenir sa maison. Mais est-ce qu'elle a tout dit? La fille va tenir sa maison, mais elle a donné à sa jeune fille les éléments de base pour tenir sa maison. Donc Paul a donné des éléments de base à l'église primitive, à l'église d'Éphèse, pour que chaque chrétien de cette église-là soit fort. Et il dit au verset 31 qu'il a fait ça pendant 3 années. 3 années. Je n'ai cessé nuit et jour, à vous le transmettre. À transmettre des vérités fondamentales que chaque chrétien doit avoir dans son cœur. Et nous allons revenir sur ces éléments de base. Paul a été influencé par un monsieur qu'on appelle Barnabas. C'était son mentor, qui lui-même avait été enseigné par l'Église primitive sur des éléments essentiels à transmettre. Et ce matin, nous allons aller à l'école de l'Église primitive. Et Dieu va extraire parmi l'Église primitive un professeur agrégé, titulaire de chaire, qui va nous dire quelles sont les matières que eux, ils enseignaient à l'Église primitive. Quels sont les cours? Quand je suis au CM2, on dit voici le programme que je dois connaître. Quand je suis en sixième, voici le programme que je dois connaître. Quand je suis en terminale, voici le programme que je dois connaître. Quel était le programme de l'Église primitive? Quels étaient les grands chapitres qu'ils ont traités? Et Jean, l'un des plus grands professeurs de l'Église primitive, il va nous détailler tous les chapitres que tout chrétien qui naît de nouveau doit connaître. On va aller pas à pas. On va aller dans 1 Jean, le chapitre 2. Ce matin, on est très très cool. On va aller tout doucement. Parce qu'il y a des choses qui libèrent le chrétien. Et le savoir me donne l'assurance. Si ces vérités ne sont pas ancrées en moi, je reste constamment agité. Qu'est-ce que l'Église primitive a fait? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné aux chrétiens? Jean va nous les dire dans les moindres détails. Premier point essentiel que chaque chrétien doit savoir. 1 Jean 2, le verset 12. Dans l'église primitive, il y avait des petits-enfants, il y avait des jeunes gens et il y avait des pères. Quand je suis petit-enfant, quels sont les éléments de base que je dois avoir dans ma vie chrétienne? Pour ne pas que quand quelqu'un prêche, « Ah, mais oui, qu'est-ce qu'il dit ?» Non. Quels sont les éléments de base? Premier point majeur, quand je nais de nouveau, quand je rentre dans l'église, le premier point pour enlever l'agitation en moi, l'église primitive, de la bouche de Jean, dit que tout nouveau chrétien, tout enfant de Dieu, ici il parle des petits-enfants d'abord, tout petit enfant doit savoir une fois pour toutes que ses péchés sont pardonnés. Premier chapeau que je dois savoir quand je mets mes pieds dans l'église, mes péchés sont pardonnés. Si quelqu'un me raconte autre chose, ça le regarde. De façon définitive, je dois accepter ça et garder ça dans mon cœur. À la croix, Jésus a pris mes péchés. Et c'est irrévocable. Quiconque me rappelle mon péché perd son temps. Mes péchés, de façon définitive, on est tous tout le temps agités, tout le temps en train de nous inquiéter de ce que nous sommes des petits pécheurs. Dieu dit non. Ce ne sont pas des petits pécheurs. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est une fois pour toutes. Mes péchés sont définitivement pardonnés. Je ne dois pas avoir d'agitation par rapport à ce point-là. Deuxième point majeur, deuxième chapitre, qui traverse toute la Bible. Je dois, en tant que petit enfant qui vient de rentrer dans l'église, il dit que tout petit enfant doit connaître son père. Si dans la salle qui est là, on met 15 mamans et on met un petit enfant ici, quand les 15 mamans vont parler, il ne va pas être sensible. Mais si sa maman dit « Joseph », il reconnaît la voix de sa maman. Il fait la distinction entre les 15 mamans et la voix de sa maman. Tout nouveau converti doit être sensible à la personne du Saint-Esprit. Dans les 4 évangiles, il y avait quelqu'un qui consolait les chrétiens qui s'appelait Jésus. Il dit « Je m'en vais. Quand je vais partir, il y a un nouveau consolateur qui va venir. C'est lui qui va vous consoler. Il faut que chacun le connaisse. Je dois connaître la personne du Saint-Esprit qui est le consolateur de l'Église. En tant que petit enfant, il est impératif que je le sache. Mes péchés sont pardonnés. Je commence à connaître mon Père. Je commence à le découvrir. On m'enseigne qui il est. Et petit à petit, je commence à être sensible au Saint-Esprit. Et dans ce processus de croissance, dans ma petite enfance, on ne me cache pas la réalité dans laquelle je me trouve. Allons au verset 18. Troisième chapitre important sur lequel on doit revenir constamment dans ma vie, c'est qu'en tant que petit enfant, je dois savoir que à compter d'aujourd'hui, je suis dans la dernière heure. Même si je suis né aujourd'hui en 2018, je dois savoir que je suis dans la fin des temps. Je dois le savoir. Je ne dois pas me projeter dans 800 ans, dans 600 ans. Je dois savoir que Jésus revient. Donc je vais faire attention pour corriger ma vie. Je dois faire attention pour savoir qui est Jésus et quand est-ce qu'il revient. Paul n'a pas caché ça à ses disciples. L'église primitive n'a pas caché ça à ses disciples. Jésus lui-même n'a pas caché que c'est la fin des temps.
Donc je ne dois pas me projeter dans un millénaire. Je dois vivre aujourd'hui comme si Jésus vient demain. Tout ça pour que le petit enfant soit prêt à la rencontre de son père. Que c'est important. Savoir que je suis en 2018 là, dans la fin des temps. Dans ma petite enfance, toujours dans ma croissance, allons au verset 20, il parle encore aux petits enfants. Il dit que tout petit enfant dans l'église doit savoir que déjà en lui, il y a de la connaissance. Je dois savoir que j'ai le Saint-Esprit en moi et que je suis rempli de connaissances, même étant petit. C'est pourquoi un médecin ne peut pas se moquer d'un enfant qui a 5 ans et qui est au CP. Il a étudié pour devenir médecin. Dans 20 ans, ce même enfant, avec le même potentiel, avec les chances qu'il a à l'école, en étudiant, peut devenir aussi médecin. Dans ce petit enfant, il y a déjà de la connaissance. Tout chrétien qui vient de naître, à cause du fait que le Saint-Esprit est en lui, a déjà la connaissance. Que c'est important de savoir que la connaissance est déjà en moi. Tout ça pour éloigner de moi l'agitation de la vie. Tout ça pour éloigner de moi les éléments qui peuvent me troubler. En moi, il y a déjà de la connaissance. Il y a déjà de la connaissance. Que c'est important. Et petit à petit, je continue à grandir. Et au verset 26, toujours dans le chapitre 2, il me dit, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Le petit enfant est manipulable. Il est influençable. On peut le mener à tout vent de doctrine. Il doit commencer à se méfier de qui parle de Dieu, qui ne parle pas de Dieu. On doit le mettre en contact avec la parole de Dieu. Il doit manger la parole de Dieu. Il doit se focaliser uniquement sur la parole de Dieu. On n'attend pas d'être barbu pour recevoir les enseignements. Dans ma petite enfance, on me dit, attention, il y a de la manipulation devant. Attention, reste dans les Écritures. Parle la parole, médite la parole, reste ferme sur la parole. Déjà tout petit. Et il continue dans le verset 26. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit est déjà dans la vie du petit enfant. Il a besoin simplement qu'on corrige certains éléments dans sa vie. Et le fait qu'il soit en contact de la personne du Saint-Esprit, au fur et à mesure, la connaissance va apparaître. Au fur et à mesure, le fait de s'attacher à la parole constamment, la connaissance et la révélation de cette parole va apparaître dans sa vie. Déjà tout petit. Que c'est important. Que c'est important. Le cinquième point majeur que tout petit enfant doit savoir au verset 28. Il dit, petits enfants, demeurez en lui. Je dois commencer à savoir que je dois demeurer dans la parole de Dieu. Juste lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Déjà dans ma petite enfance, même si je ne suis pas encore devenu un jeune homme, même si je ne suis pas encore devenu un père, on me prépare à gagner en assurance. Et même si Jésus revient et que je ne suis pas encore devenu jeune, je ne suis pas encore devenu père, j'ai l'assurance que même si Jésus vient de suite, je suis sauvé. Même si Jésus venait de suite, que je n'ai pas franchi les étapes pour devenir un jeune homme, je sais que j'ai l'assurance de mon salut. Et personne ne va me distraire sur cette vérité. Quand je suis petit enfant. On m'apprend à ne pas douter sur des éléments fondamentaux de la parole de Dieu. À savoir que là, définitivement, j'ai l'assurance de mon salut. Tout petit. Tout petit. Sixième point. Verset 7 du chapitre 3. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Je dois être à l'aise avec la parole de Dieu. Je dois être capable de discerner ce qu'on me dit, si c'est faux ou si c'est vrai, à cause de qui? La personne du Saint-Esprit en moi. Que personne ne vous séduise, parce qu'il peut y avoir de faux docteurs. Il peut y avoir des manipulateurs. On me prépare déjà dans ma petite enfance. On ne doit pas me séduire. Et comme on m'a mis très vite au contact de la parole de Dieu, comme on m'a dit, attention, voilà maintenant ta boussole. Lis-la, médite-la jour et nuit. Parce que tu peux, si tu ne fais pas attention, t'arrêter sur la route des pécheurs. Tu peux avoir pour camarades des moqueurs. Tu peux avoir pour amis des méchants. Psaume 1, verset 1. Et ceux-là, ils peuvent t'induire vers la destruction. Ils peuvent te conduire vers la destruction. Dans ma petite enfance, on me prépare à ne pas être séduit. Septième point majeur dans ma petite enfance que je dois apprendre. Septième point majeur. Le verset 9. Je dois savoir dans ma petite enfance que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Je dois commencer à me méfier. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On me dit attention. Alors que nous-mêmes, nous savons que tout petit enfant peut faire des bêtises. Tout petit enfant peut tomber. Mais on dit attention, ne fais pas des bêtises. Quand il dit des gros mots, on dit chut, attention. Dans ma petite enfance, on me corrige. Mais ils savent qu'ils sont en train de parler à des petits enfants. Donc, même si le petit enfant est prévenu, on sait qu'il peut tomber. Même les jeunes peuvent tomber, même les pères peuvent tomber. Mais déjà dans ma petite enfance, on me prévient. Et pour rassurer le petit enfant, revenons au chapitre 2, le verset 1. Pour rassurer le petit enfant, attention, tu ne dois plus pratiquer le péché. Mais en même temps, on le rassure. Même dans ma petite enfance, je dois savoir que même si par inadvertance, je suis tombé, il y a qui? Jésus. Le puissant avocat qui est auprès du Père et qui défend continuellement ma cause. Tout ça étant petit, on me dit attention, ne fais attention au péché. Mais s'il arrive que je tombe, t'inquiète pas, Jésus est là. Le puissant avocat, il est là il n'est pas mort. Il est continuellement en train de travailler. Il n'a jamais plaidé pour quelqu'un et pour que cette personne-là sorte de la présence de Dieu coupable. Toute sa plaidoirie s'accompagne toujours de non coupable. Donc même dans ma petite enfance, on m'apprend à ne pas pécher. Mais si je tombe, on me rassure. Attention, Jésus est là. Il plaide pour toi. Il te rassure. Il fera de telle manière qu'il n'y ait pas l'agitation dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de la culpabilité dans ton cœur. Huitième point majeur que je dois savoir en tant que petit enfant. Toujours le chapitre 3, au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Je dois savoir dans ma petite enfance à apprendre à marcher dans l'amour. On m'apprend à marcher dans l'amour. On m'apprend à marcher dans la vérité. Et le psaume 119, verset 160 nous dit que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. On m'apprend à pratiquer l'amour. Pas des théories, la vérité, la vraie vérité, la vraie amour, le vrai amour plutôt. Dans ma petite enfance, on m'enseigne ça. Il faut apprendre à aimer les pères, à aimer les frères, à aimer son prochain dans ma petite enfance. L'amour est fondamental dans l'Église. C'est l'atmosphère majeure du royaume. Donc je dois commencer à pratiquer l'amour, à vivre dans l'amour, à respirer l'amour, à comprendre ce que c'est que Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie et la puissance par le Saint-Esprit. Je dois commencer à comprendre tout ça et à marcher dans cet amour-là. Tout petit. Neuvième chapitre majeur qui traverse toute la Bible, que je dois apprendre. Paul dit qu'il a mis 3 ans, jour et nuit, en train d'enseigner ça, parce que pour que ça pénètre, ça prend du temps. Neuvième point important que je dois savoir dans ma petite enfance, le verset 4 du chapitre 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je dois savoir ma nouvelle race. Vous êtes de Dieu. Je suis déjà vainqueur étant petit enfant. Je suis déjà vainqueur. Quand Paul est allé prêcher à l'Areopage dans Actes 17, il dit de Dieu, nous sommes la race. De Dieu, je suis la race. J'ai une nouvelle identité. De Dieu, nous sommes la race. Donc ça casse automatiquement tout complexe de supériorité, tout complexe d'infériorité. Je sais ma nouvelle identité. Il n'y a plus de complexe de je suis une femme. Il n'y a plus de complexe de je suis un homme. Il n'y a plus de pauvre, il n'y a plus de riche, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'homme. Je connais mon identité. De Dieu, je suis la race. Dans ma petite enfance, on me le dit. Pas quand j'ai la barbe. Tout petit. Je viens de rentrer dans l'église. Voici les éléments essentiels que je dois garder dans mon cœur. Et plus ces éléments s'enracinent en moi, l'assurance grandit. L'assurance grandit. L'assurance grandit. Et je commence à ne pas avoir peur. De Dieu, je suis la race. Aucun homme ne va m'influencer. Les gens regardaient les chrétiens de l'église primitive, ils me disent, mais vous regardez ces gens-là, ils n'ont aucune instruction. D'où leur vient cette assurance? D'où ça sort? Ils étaient de la race de Dieu.
Savoir que je suis de la race de Dieu me libère de tout complexe. Pourquoi je vais être influencé? Pourquoi je vais paniquer? Si je suis de la race de Dieu, pourquoi je vais paniquer? Quel est le complexe que je vais avoir? Qui va m'influencer? De Dieu, je suis la race, une fois pour toutes. Aucune race humaine n'est supérieure à moi. De Dieu, je suis la race. On me le dit et ça pénètre en moi dans ma petite enfance. Donc je grandis sans complexe. L'église primitive n'a rien à envier à l'église du 21e siècle. Regardons le 10e point abordé. Essentiel dans ma petite enfance que je dois savoir au chapitre 5, le verset 13. Dans ma petite enfance, on dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans ma petite enfance, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Personne ne peut venir me distraire sur cette vérité. Personne ne peut venir me manipuler sur cette vérité. J'ai la vie éternelle. Combien disent qu'ils sont sous la grâce, mais dans leurs faits et dans leurs comportements, ils vivent comme s'ils sont sous la loi. Quand je suis sous la grâce, je suis pleinement sous la grâce. Je n'ai pas peur. Je suis sous la grâce. Si j'ai péché, je demande pardon. Dieu m'efface mon péché, je continue. Personne ne va me distraire sur ma vie éternelle. Quand, tout petit, j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle. J'ai cette assurance. Elle déborde en moi. Personne ne peut venir me manipuler sur ça. Personne. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Comment l'agitation peut être encore dans mon cœur? Comment le trouble peut être là? Onzième point majeur dans ma petite enfance que je dois savoir. Il répète ça parce que c'est important. Au verset 18, il répète. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il répète ça. C'est-à-dire, il ne fait plus de la vie de péché son dada, son habitude. Il commence à se garder. Il commence à faire attention. Le péché commence à être accidentel dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber, mais ça commence à devenir accidentel. Dans ma petite enfance, je suis en train de grandir. Je suis en train de manger la parole. La parole s'enracine en moi. Je commence à faire attention. Je dois faire attention, attention. Je ne dois plus pratiquer le péché. Je dois commencer à me coller au père, aux aînés. Ah, comment ils marchent. Je commence à les regarder. Je regarde le modèle qu'ils sont. Je prends en compte leur vie. Je fais attention. Pourquoi? Je peux tomber. Mais en les regardant, en voyant comment ils vivent, en me confiant en eux, petit à petit, je corrige ma vie. Ah, mais il y a tel problème qui est compliqué. Comment m'en sortir? Je pose les questions. Ils m'aident. Dans ma petite enfance. Dans ma petite enfance, pour ne même pas que je sois troublé. L'église primitive a fait le job. Et le dernier point dans ma petite enfance, la fin du verset 5. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je dois commencer à me garder moi-même. Comme j'ai mangé, je suis fort. On me dit attention, il y a beaucoup d'idoles devant toi. Il y a beaucoup d'idolâtrie devant encore. Fais attention. Fais attention à la cupidité qui peut être une forme d'idolâtrie. Fais attention
à plusieurs choses. Ton travail peut devenir une idole pour toi. Plein de choses peuvent se transformer en idole. Commence à faire attention. Dans ma petite enfance. Voici les points majeurs pour le petit enfant. Ça, c'est le lait spirituel. Dans tout ça, il n'y a rien de nourriture solide. Que le lait. Que le lait. Dans tous ces points qu'on a vus, est-ce qu'on a entendu Sainte-Seine? Non, c'est que le lait. La Sainte-Seine rentre petit à petit dans la nourriture solide. Et la nourriture solide, quand elle vient, elle provoque des indigestions. Toutes les mamans savent que quand on quitte le lait et qu'on donne la nourriture solide, au début, l'enfant peut faire des indigestions. Mais elle n'est pas troublée. Elle sait que l'enfant va finir par manger ça. Donc la Sainte-Seine, c'est un cran un peu au-dessus. Paul dit aux Corinthiens, il y a une nourriture que vous ne pouvez pas encore supporter. Il sait. C'est pourquoi quand on dit la Sainte-Seine tue, si je n'ai pas grandi, c'est dur d'accepter ça. Comment le petit pain qu'on achetait à Carrefour peut me tuer? Pourtant, quand ça pénètre dans l'église et que c'est sanctifié, je dois me méfier. C'est la nourriture solide. Regardons les jeunes. On va aller vite. Pour les jeunes, c'est pas compliqué. Les jeunes, c'est ceux qui ont quitté le cap de petit enfant. Ils ont appris. Ils sont restés au pied des pères. Ils ont reçu l'enseignement. Ils sont en train de grandir. Regardons les jeunes. 1 Jean 2, le verset 13. Qu'est-ce qui caractérise les jeunes qui ont mangé? Qu'est-ce qui les caractérise? 1 Jean 2, le verset 13, la deuxième partie du verset. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Les jeunes sont vainqueurs, ils sont forts. Ils ont mangé la parole est là. Et il répète en détaillant ce qui caractérise les jeunes. Au verset 14. La deuxième partie du verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Ils ont étudié les cours que les pères leur ont donnés. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils sont devenus forts. Ils commencent à se démarquer des petits-enfants. Quand les jeunes gens, les pères et les petits-enfants sont ensemble, il y a une différence. C'est pourquoi, dans Actes 6, on ne va pas le lire, quand le nombre des disciples augmentait et que ça provoquait un peu de trouble et que les anciens étaient en train de distribuer aux tables, ils ont dit attention, choisissez des jeunes. Quand on lit Actes 6, les critères de Actes 6 sont ici. Choisissez ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont forts. Ils n'ont pas donné de nom. Ils disent choisissez. Si on nous fait sortir, nous tous ici, on met des CM2, des troisièmes, des terminales, on dit choisissez des terminales, ce n'est pas difficile à choisir. Et tous, ils suivent le même programme. Un élève de terminale d'Orléans suit les mêmes cours que l'élève de terminale de Chartres. Donc, troisième, CM2 et terminal. On dit choisissez trois terminales. Ils vont les désigner. Maintenant, si celui qui est au CM2, il dit non, moi, il y a longtemps que je suis là et je pense qu'il y a le nouveau terminal. C'est pas compliqué. Quel est le théorème de Pythagore? Ah, moi, je connais Pythagore et Pythagore, c'est l'ancien maire de Chartres. Va lui dire, va t'asseoir. Va t'asseoir. Pythagore, c'est l'ancien maire de Chartres. Va t'asseoir. Parce qu'ils suivent eux tous le même cours. Les jeunes gens ont mangé. Ça, c'est un des professeurs de l'Église primitive qui nous sort le détail de ce qu'eux, ils ont fait. Et comme il est en train de manger, il découvre des vérités au fur et à mesure qu'il consomme. La parole de Dieu rentre en lui. Regardons les pères. Ça, c'est les jeunes. Regardons les pères. Il y a une seule chose qui les caractérise. Au verset 13. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Regardons la phrase. Il va répéter la phrase telle qu'elle au verset 14. Je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Les pères sont caractérisés par maintenant leur constance. Ils sont constants. Ils ont dépassé le stade des petits enfants. Ils ont dépassé le stade de jeunes. Ils sont constants. Ils sont constants. Quand ils tombent, c'est vraiment accidentel. Ils sont constants. On n'a pas dit qu'ils ne pêchent plus. Mais ils deviennent constants. C'est des modèles. Ma préoccupation dans l'Église doit être quel est mon âge spirituel. Si je ne connais pas mon âge, je vais traiter un père comme un petit enfant. Je vais traiter un jeune comme un petit enfant. Je peux positionner un petit enfant comme un père. Et tout ça, c'est du désordre. Ils ont fait leur part. Ils ont tout enseigné. Dieu dit, chacun doit connaître sa place. L'Église primitive, les petits-enfants connaissaient leur place. Les jeunes gens connaissaient leur place. Les pères éprouvent les jeunes gens. Quand on place les jeunes gens comme responsables, ils ont le droit d'être éprouvés par les pères. Parce que l'orgueil est en eux. L'Église primitive a enseigné les fondements de la parole, a enseigné les points essentiels à savoir pour avancer. C'est pourquoi dans ma petite enfance, si on me propose une responsabilité de père, je dois être à même de refuser. Je dois être à même de dire, je ne peux pas supporter ça. Paul dit, pendant 3 ans, jour et nuit. Ça veut dire que tous les dimanches, ça va faire 10 ans. Jour et nuit. Parce que ça, pour que ça pénètre, c'est des pleurs. Ah, mais je ne crois pas. Ah, mais ce n'est pas vrai. Il faut répéter. C'est pourquoi il persévérait. Persévérer, c'est reprendre les choses qu'on a déjà faites, mais reprendre pour que ça rentre. Jusqu'à ce que l'assurance rentre dans mon cœur. Que c'est important de mettre chaque chrétien en face de la parole. Et de savoir que notre fondation, ce n'est pas notre don que Dieu nous a donné. Notre fondation, ce n'est pas dire je balaie l'église. Ce n'est pas dire j'occupe tel poste dans l'église. Ce n'est pas ça ma fondation. Ma fondation, c'est quelle est ma communion avec le Saint-Esprit et la parole. Et l'assurance grandit en moi petit à petit. Le Seigneur m'a mis à cœur cette exhortation d'ordre général pour que chacun de nous voit qu'il y a des éléments sur lesquels il doit avancer. Il y a des pères ici qui ont déjà progressé sur tout ça. Gloire à Dieu. Mais si je suis encore en retard, je dois progresser sur ça. Je dois avancer avec toute l'humilité que ça demande. Je dois progresser. Nous allons prier.